De nouveau, bonsoir Enrico Macias.
Bonsoir.
Depuis le début de la nuit, nous avons parlé des Juifs de Constantine, de Django Reinhardt et de Charles Aznavour. Nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture, qui continue avec l'histoire de l'Olympia proposée par Thierry Aveline en 1991. Jean-Michel Boris, directeur de la salle entre 1979 et 2001, y sera notre guide, ainsi que sa tante Paulette Cocatrix. Au début des années 60, après avoir chanté dans les cabarets, une de vos ambitions était de passer à l'Olympia. Vous dites, je ne sais pas pourquoi, Bruno Cocatrix ne croit pas en moi, il pense que je vais être un feu de paille et que l'on n'entendra bientôt plus parler d'Enrico Macias. Comment s'est passée votre première rencontre avec Bruno Cocatrix ?
Alors, ma première rencontre, je m'en souviens très bien. J'avais été voir un spectacle et à la fin du spectacle, il y avait Cocatrix dans les allées des coulisses de l'Olympia. Il tend la main. J'ai cru qu'il me tendait la main pour me dire bonjour. J'ai dit, oh là là, c'est une embellie. Mais il a tendu la main à quelqu'un d'autre. Et moi, je voulais lui parler, j'arrivais pas. Alors, j'ai pas pu lui demander de passer à l'Olympia, quoi. Je voulais profiter de ce moment-là pour passer à l'Olympia. Mais le destin a voulu que, quand même, il a été plus fort que la vie de Bruno Cocatrix. C'est-à-dire que les compagnons de la chanson, en mars 64, devaient faire l'Olympia. Mais ils voulaient quelqu'un qui les soutienne bien en vedette américaine. Et ils ont dit, s'il n'y a pas Enrico Macias, on ne fait pas l'Olympia. Et Cocatrix tenait absolument à ce que les compagnons fassent l'Olympia. Et il a dit, ah, vous voulez Enrico Macias en américaine ? Bon, allez, bon, d'accord, mais vous faites l'Olympia, oui. Alors, il accepte que je passe à l'Olympia en vedette américaine. Et coup du sort, je fais mon spectacle à l'Olympia et je casse la baraque. Les critiques, tout ça, bon, formidable. Et tout le long du spectacle avec les compagnons de la chanson, Bruno Cocatrix m'invitait chez lui pour nous faire les pâtes, comme il a l'habitude de le faire quand il veut convaincre un artiste. Il me faisait les pâtes, il me dit, alors ben, je te propose, après les compagnons, de prolonger en vedette. J'ai dit, ah bon? C'est magnifique, je vous remercie Bruno. Mais comment je peux faire un affront comme ça aux compagnons de la chanson qui, grâce à eux, pas grâce à vous, je lui ai dit carrément, hein, parce que vous savez, j'étais peut-être un peu timide à l'époque, mais j'étais franc. Je disais tout le temps ce que je pensais. Et je lui disais, non, je peux pas faire cet affront aux compagnons de la chanson. Il me dit, mais tu rates peut-être la chance de ta vie. Si ça se trouve, l'année prochaine, tu seras plus Enrico Macias. Je lui dis, c'est comme d'habitude, vous pensez que je suis qu'un feu de paille. Mais moi, si je fais ça, je peux plus me regarder devant une glace. Alors, si je dois pas être une vedette l'année prochaine, à quoi ça sert d'être une vedette maintenant? Alors, je préfère attendre l'année prochaine et vous prouver le contraire. Et je serai une vedette l'année prochaine et je passerai en vedette à l'Olympia et je ne ferai pas l'affront aux compagnons de la chanson. Et ça, je suis fier de vous raconter cette histoire parce que j'ai une reconnaissance éternelle envers les compagnons de la chanson parce que sans eux, j'aurais jamais percé dans ce métier. Jamais.
Et au même moment, vous recevez une lettre de l'Éducation nationale, 3 ans après votre demande. Que se serait-il passé si vous aviez reçu ce courrier plus tôt ?
Si j'avais reçu le courrier plus tôt...
Puisque vous aviez postulé, il faut peut-être...
Oui, j'aurais continué à faire mon métier d'instituteur à l'époque. C'est ce que je voulais. Mais le démon de la musique m'aurait rattrapé. Et j'aurais fait l'instituteur tout en faisant de la musique, comme je faisais là-bas, à Constantine.
Dans l'émission que nous entendrons, l'épouse de Bruno, Paulette Cocatrix, dit que Bruno a eu 10 ans d'avance sur tout. Il y avait chez lui, puis chez Jean-Michel Boris, la volonté de faire découvrir des nouveaux talents.
C'est vrai, mais en tout cas pas pour moi. Non, mais je l'aimais quand même, Bruno. Je l'aimais bien. Et j'aimais Paulette, j'adorais Jean-Michel Boris surtout, Patricia aussi. Mais franchement, Jean-Michel, lui, a été plus... Et Paulette Cocatrix, ont été plus près de moi que Bruno, mais je n'en veux pas, c'est comme ça.
Est-ce que vous alliez voir les autres sur scène? Est-ce que vous alliez écouter les chanteurs à l'Olympia ou ailleurs?
Oui, j'allais écouter les autres chanteurs, mais le moins possible, parce que je ne voulais pas être trop impressionné par eux et vouloir les copier instinctivement.
Vous êtes resté fidèle à l'Olympia, vous vous y produisez chaque année, vous y étiez encore au mois de janvier dernier. Vous dites « je devrais être repu d'Olympia, mais j'ai encore envie d'y être ».
Ah, vous avez dit repu?
Oui, repu.
Non, je ne suis jamais repu d'Olympia, au contraire. Non, non. Non, mais là on avait décidé de faire tous les ans l'Olympia. Je ne sais pas si l'année prochaine je vais le refaire, parce qu'on a d'autres projets avec mon fils, avec Jean-Claude. Des projets qui n'ont rien à voir avec l'Olympia, mais des projets quand même de musique.
Dans l'archive, Gilbert Bécaud dit que la scène et la salle de l'Olympia sont habitées. Il ajoute « il y a des églises où l'on prie mieux que d'autres et des théâtres où l'on chante mieux que d'autres. Est-ce qu'on chante mieux qu'ailleurs à l'Olympia ?»
C'est vrai, je l'ai remarqué. Bon, évidemment, j'ai fait plusieurs scènes dans le monde entier. C'est un peu exagéré, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une âme à l'Olympia. Une âme, c'est spécial à l'Olympia.
Est-ce que d'ailleurs, depuis 1997, c'est une nouvelle salle? L'Olympia a été reconstruite à l'identique et à quelques mètres de l'ancienne. Est-ce que l'esprit du lieu est toujours intact, est toujours là?
À part les coulisses qui ont changé complètement, qui ont changé mes repères, parce que j'avais quand même des repères pour aller sur scène par rapport aux coulisses et tout, ça a changé. Mais quand je suis sur scène, je vous jure que j'oublie que la salle a été refaite.
Vous parlez des coulisses et d'ailleurs Jean-Michel Boris dit que les coulisses sont parfois un endroit triste, mais pas celle de l'Olympia.
Non, l'Olympia, il se dégage des ondes positives. Il y a des ondes positives, ça c'est sûr.
Et on y croisait le tout Paris.
Il y avait le tout Paris à l'Olympia. À l'Olympia, il y avait le tout Paris, ouais. Il y avait aussi il y avait pas seulement les chanteurs, mais aussi des sportifs qui venaient, des hommes politiques, tout le monde.
Enrico Macias, vous parlez de sportifs. L'archive suivante est un des entretiens avec Juste Fontaine pour À Voix Nue au micro de David Arthur en 2009. Juste Fontaine, c'est quelqu'un que vous connaissez bien.
C'est quelqu'un que je connais très 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 bien. Je l'ai rencontré un été, il y a des dizaines d'années, à Saint-Tropez. Et évidemment, j'avais beaucoup d'admiration pour lui, parce que j'adore le football et pour moi, je le considère comme un des plus grands footballeurs de tous les temps, parce qu'il ne faut pas oublier que Juste Fontaine est le recordman des buts dans une seule Coupe du Monde. 13 buts il a marqué en Coupe du Monde. Mais ce qui nous rapproche le plus, c'est que il me voit à Saint-Tropez, il me dit, tu sais, on a un point commun énorme. Je lui dis quoi? Il me dit, ma fille est né le 14 décembre 1967, le même jour que la naissance de mon fils Jean-Claude. Alors, c'est quand même un point commun.
Juste Fontaine, c'est le football des années 50. Quelle place tenait le football et le sport en général, la boxe, le vélo, dans votre enfance, votre jeunesse en Algérie?
Le vélo, c'était le Tour de France. Avec mon frère, on avait acheté des petits cyclistes, vous savez, puis on avait des carrelages chez nous à la maison. On faisait un tour avec les dés, puis on avait nommé les petits coureurs comme le nom des coureurs cyclistes qui faisaient le Tour de France. Et puis celui qui avait réussi le plus avait gagné le tour. Des fois c'était mon frère, des fois c'était moi. On s'amusait comme ça. On avait inventé un jeu. Alors il y avait le vélo, il y avait la boxe, parce que nous avions des boxeurs, bon, comme Marcel Cerdan. On avait un amour fou pour Marcel Cerdan, pas seulement en Algérie, mais aussi en France, partout. Ça a été un grand champion du monde. Puis on avait eu deux autres champions du monde de ma ville natale, Alphonse Halimi et Robert Cohen. Voilà.
Il y avait
champion
aussi
du monde des poids coqs, les deux.
Est-ce qu'il y avait une fierté particulière de voir réussir des sportifs d'Afrique du Nord, d'Algérie?
Bien sûr. C'était des gens de chez nous. Et puis, en Algérie, on avait une certaine fierté quand quelqu'un réussissait, que ce soit dans le sport ou dans d'autres, discipline.
Dans l'archive que nous allons entendre, Juste Fontaine évoque son enfance, sa jeunesse au Maroc, les équipes de football communautaires. Ça se passait comment à Constantine, les clubs de football et les différentes communautés?
Les communautés s'entendaient mieux que les supporters des équipes de football. Par exemple, moi, j'aimais un club qui s'appelait le Mouloudia Olympique de Constantine, où j'y ai d'ailleurs joué quand j'étais jeune. Et il y avait le club sportif de Constantine. C'était les deux meilleures équipes de Constantine. Il y en avait d'autres, mais évidemment, les clubistes et les moquistes se bagarraient quand il y avait un derby au stade. C'était plus dangereux de confronter les supporters de l'équipe adverse que les différentes communautés. À l'époque, il n'y avait pas la guerre d'Algérie. Au contraire, on s'entendait merveilleusement bien.
Il y a toujours eu une proximité du monde de la chanson et du cinéma avec le monde du sport et de la boxe en particulier.
Oui, parce que j'ai toujours comparé mon métier à la boxe. Parce que quand on est sur scène et que le public est sur la défensive, c'est comme un boxeur qui tombe sur son adversaire qui défend bien. Il n'arrive pas à lui donner des coups pour le mettre KO. Ou pour gagner. Alors, je fais comme dans la boxe. Je m'éloigne un petit peu du public. Donc, je reste sur la défensive, moi-même. Et quand il vient vers moi, donc je trouve l'ouverture et je le mets KO.
Votre club de cœur, c'est toujours le PSG ?
Oui. Oui, mais... Ça fait quand même des années qu'on souhaite une grande équipe à Paris. Et grâce aux Qataris, on a réussi à avoir une grande équipe à Paris. Seulement, la différence, c'est que c'est plus du tout un club artisanal comme avant.
C'est plus le même esprit.
C'est plus familial comme avant. C'est la grosse industrie, quoi.
Quelles sont les rencontres qui ont compté pour vous dans le monde du sport ?
Dans le monde du sport, les rencontres qui ont compté sont Alphonse Halimi, Robert Cohen, Guy Montserré, qui était recordman de natation. J'avais un membre de ma famille qui s'appelait Alfred Nakache, qui a été recordman du 200 mètres brasse. Voilà, ceux qui ont manqué. Juste Fontaine, bien sûr. Piantoni,
Louis Acariès.
Ah, et les Acariès aussi, surtout Louis qui était un boxeur fantastique, qui a un peu raté, il n'est pas devenu champion du monde, mais parce que sur scène, il avait quand il était sur le ring, il avait le trac. Il avait un peu le trac, mais c'était un grand champion. Même s'il n'a pas eu le titre de champion du monde, ben moi je lui décerne.
Quels sont les moments de sport, les événements qui vous ont marqué ?
Eh ben, c'est la Coupe du Monde 1998, Zidane. La Coupe du Monde 98 a été un moment historique pour la France, et pour l'équipe de France et pour la planète entière.
En 1954, Juste Fontaine s'est retrouvé face à son idole, Larbi Ben Barek, en finale de la Coupe de France, et il dit que c'était très difficile de jouer contre quelqu'un qu'il admirait. Enrico Macias, comment fait-on pour jouer ou chanter, avec ou devant, quelqu'un que l'on admire ?
Ben, c'est ce qui s'est passé avec Tonton Raymond. C'est ce qui s'est passé avec Charles Aznavour, quand j'ai fait des duos avec lui. Bon... Sans vouloir être prétentieux, la musique prend le dessus. C'est-à-dire mon amour, la drogue que j'ai, la musique qui coule dans mes veines, prend le dessus sur cette appréhension d'être devant quelqu'un qu'on admire. Mais ça n'empêche pas l'admiration et aussi d'assurer et puis de lui montrer à celui qu'on admire qu'on est à la hauteur aussi.
Enrico Macias, avant de poursuivre, je vous propose d'écouter quelqu'un que vous admiriez et devant lequel vous avez chanté.
Au nom de Dieu, Monsieur le président de la Knesset, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de m'adresser à Monsieur le Président de la Knesset et de lui adresser mes vifs remerciements pour m'avoir donné cette occasion de m'adresser à vous. Au moment où je commence mon allocution, j'aimerais vous dire que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur vous et que le salut de Dieu nous accompagne tous. Que la paix de Dieu nous accompagne sur la terre arabe et en Israël et dans toutes les parties de ce monde vaste et étendu. Ce monde qui est devenu complexe avec ses conflits sanglants, qui est agité par des contradictions qui menacent de temps à autre de guerres destructrices. Ces guerres fabriquées par l'homme pour anéantir son frère et son prochain. Et sur les décombres de ce que l'homme a fabriqué lui-même et parmi les corps des victimes, il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. Le vaincu restera toujours l'homme. Je répète, l'homme. L'homme, cette création parfaite que Dieu a créée. Comme le dit Gandhi, apôtre de la paix, l'homme a été créé pour marcher sur ses jambes, pour édifier la vie et se consacrer à la prière et à l'adoration de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu vers vous d'un pas ferme pour que nous puissions édifier une vie nouvelle et pour que nous puissions établir la paix. Nous tous, sur cette terre, la terre de Dieu, nous tous, disais-je, juifs, musulmans et chrétiens, croyons en un Dieu seul et unique. Les préceptes et les enseignements de Dieu sont l'amour, la franchise, la pureté et la paix.
Nous venons d'entendre le début du discours d'Anwar el-Sadat devant la Knesset à Jérusalem le 20 novembre 1977. Vous étiez en Israël quand Sadat a accepté l'invitation de Begin pour aller parler devant la Knesset.
Oui, je me trouvais justement dans le bureau de Begin lorsqu'il a, quelques jours auparavant, il avait lancé un appel à Sadat pour venir en Israël. Et je me rappelle, il m'a dit, ça va être un coup de poker parce que c'est impossible. Et on reçoit l'information comme quoi il voulait se rendre à Jérusalem. On était tous... D'ailleurs, moi, quand je suis sorti, que j'ai raconté à tout le monde l'information, personne ne me croyait. Hein. Personne ne m'a cru. Quand j'écoute le discours du président Sadat à la Knesset, je me souviens, en 1977, j'étais devant ma télévision, comme des millions de gens, et j'ai pleuré. J'ai pleuré et je ne pensais pas une seule seconde que j'allais être invité par lui-même un an plus tard, pour que, ce sont ses paroles, pour que la paix qu'il a signée avec Israël, il la signe avec tous les juifs de la diaspora. Et que moi, j'étais le représentant de tous les juifs de la diaspora mondiale. Et il m'a reçu et j'ai chanté en bas des pyramides pour le président Sadat, pour sa femme, pour ses enfants, pour le peuple égyptien. Et puis il m'a reçu le lendemain à Ismaïlia et il m'a demandé de chanter le grand pardon pour lui personnellement, avec ma guitare. Je lui ai chanté le grand pardon. Et comme un enfant, on était tous les deux tout seuls, il avait demandé à tout le monde de partir. Et comme un petit enfant, il s'est mis à m'applaudir comme ça. Je retiens tous les mots qu'il a dit à la Knesset. En fait, ce sont les mots de mes chansons. Depuis que j'ai écrit Enfant de tout pays, la fraternité, l'amour, l'amitié, la tolérance entre les peuples, la paix, ça date pour moi. C'est pas seulement historique, c'est biblique ce qu'il a fait. Et moi je dis que plus fort que Gandhi, plus fort que Mandela, sa date restera dans l'histoire de notre planète comme un extraterrestre.
L'assassinat de Sadat vous a inspiré la chanson « Un berger vient de tomber », chanson que vous avez dédiée à Yitzhak Rabin sur la scène de l'Olympia en 1995.
Oui, il y a quelques semaines, j'ai encore chanté cette chanson. Et j'ai dit que cette chanson, c'était pour le président Sadat et aussi pour Yitzhak Rabin, que je n'avais pas à faire une autre chanson pour Yitzhak Rabin, et aussi que je la dédiais à toutes les victimes de Charlie Hebdo, d'Hyper Cacher et du 13 novembre dernier. C'était cette chanson que je voulais leur dédier.
Vous dites que vous ne voulez pas croire que la paix viendra, mais que vous savez que la paix viendra.
Oui, parce que la paix, si elle ne vient pas de mon vivant, c'est pas un problème. Si elle ne vient pas du vivant de tous ceux qui vivent en ce moment ici, dans ce monde, c'est pas un problème non plus. Parce que on prépare le travail pour nos enfants et nos petits-enfants. Tous les hommes de bonne volonté font le même cheminement que moi. Et on ne voudrait pas faire ça pour nous-mêmes. On veut faire ça pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants, pour qu'ils continuent le travail, pour leur montrer qu'on a commencé le travail. Si on a commencé comme ça, le processus de la paix est inévitable, est irréversible.
Cette nuit a commencé à Constantine, la petite Jérusalem. Elle se terminera, Enrico Macias, avec une autre petite Jérusalem, Sarcelles, qui abrite une des plus importantes communautés juives de France. En 2014, après un rassemblement pro-palestinien, Sarcelles avait connu une explosion de violence visant sa communauté juive. Enrico Macias, vous dites n'avoir pas eu vous-même à subir directement l'antisémitisme dans votre quotidien. Nous savons hélas qu'il n'en va pas de même depuis plusieurs années pour de nombreux juifs en France qui vivent la vie de gens ordinaires et particulièrement dans les quartiers populaires, les banlieues. Ce qui est très souvent leur quotidien, nous l'entendrons dans Sarcelles au centre du monde, après juillet, l'émission que proposait Rémi Douat en 2015 pour Les Pieds sur Terre. La peur s'est installée chez beaucoup de Français juifs. Beaucoup partent ou envisagent de le faire. Comment comprenez-vous cette réaction, Enrico Macias ?
On dit que l'histoire est un éternel recommencement, comme avant la Shoah. Il y a eu des actes antisémites qui ont amené la Shoah. Et il faut être vigilant. C'est vrai qu'il y a des actes antisémites. Quand je dis que moi, personnellement, dans mon quotidien, je n'ai pas subi l'antisémitisme, mais dans ma carrière de chanteur, je l'ai subi, ne serait-ce qu'à Roubaix, où on m'a empêché de chanter, mais j'ai tenu à conserver le spectacle. Et j'ai chanté quand même, parce qu'on m'avait boycotté. Et tout le monde a eu peur, dont la directrice du théâtre. Finalement, j'ai réussi à la convaincre et je lui ai dit que si on baissait les bras, eh ben la démocratie allait s'écrouler. Et il faut pas avoir peur ni du terrorisme ni de l'antisémitisme, parce que de toute façon, ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas. Mais il faut être vigilant. Alors, les gens qui veulent aller... Vous savez, je les comprends, les gens qui partent. Vous savez pourquoi je les comprends? Parce qu'à l'époque, quand il y a eu la Shoah, on n'avait pas d'autre alternative que d'aller à Auschwitz, quand on était persécuté. Et aujourd'hui, si la persécution des Juifs augmente de plus en plus, ne serait-ce que par l'avènement au pouvoir du Front National, on ne sait jamais. Heureusement qu'on a Israël. Heureusement que l'État d'Israël existe.
Beaucoup des Juifs de Sarcelles ont déjà dû quitter l'Algérie du jour au lendemain. Certains disent dans l'émission que l'histoire se répète. Est-ce vraiment l'histoire qui se répète ou le prolongement de la même histoire ?
Ça n'est jamais le prolongement de la même histoire, puisqu'elle s'est arrêtée à un moment donné. Mais que l'histoire se répète, oui, il faut faire attention.
Depuis novembre 2015, chacun sait ici qu'il n'est pas nécessaire d'être juif ou blasphémateur pour être menacé de mort par des islamistes. Il aura fallu ces derniers attentats pour prendre conscience de l'urgence à faire face. Pourtant, il y avait eu l'assassinat d'Ilan Halimi, l'affaire Merah, et on peut se demander si, sans Charlie Hebdo, la seule tuerie de l'hypercacher aurait suscité la mobilisation du 11 janvier. Comment surmonter la colère, l'amertume devant ce que cela nous révèle ?
C'est difficile, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant ces événements-là, franchement, j'ai été bouleversé, j'étais complètement désemparé. Ça m'a même rappelé les événements d'Algérie, en quelque sorte, où nous étions entre le marteau et l'enclume. Mais si ceux qui critiquent Israël de combattre le terrorisme s'aperçoivent qu'eux aussi sont menacés par le terrorisme, pourquoi continuer à critiquer les Juifs et Israël, puisque nous sommes sur le même bateau? Alors il faut un peu plus de solidarité, pas seulement entre Juifs, mais entre humains. C'est ça que je voudrais faire passer dans mes messages. C'est pas seulement les Juifs, parce que nous refusons d'être dans des ghettos. Nous ne voulons plus être dans des ghettos. Nous voulons que tout le monde prenne conscience. Je veux dire, tous les républicains en France, toute la planète, le monde entier, s'unissent et soient solidaires pour combattre les extrémismes et pour combattre le mal.
Pour en revenir à l'année 2000, où on avait tenté de vous empêcher de chanter en France, à Roubaix, une des étapes de la tournée en hommage à Cheikh Raymond, selon vous, votre hommage à Cheikh Raymond ne pouvait être admis par certains que si vous faisiez tout pour faire oublier que vous êtes juif.
C'est vrai que en tant que juif, ça a contribué à... Et en plus de ça, quand un juif chante en arabe, il y en a beaucoup qui ne le supportaient pas. Complètement idiot. Complètement. Mais moi, j'ai tenu à continuer à chanter en arabe. Et ça, personne ne m'en enlèvera.
Vous dites, après avoir chassé les juifs d'Algérie, on veut les chasser de la mémoire de l'Algérie, de la mémoire nord-africaine tout entière.
On ne peut pas. On peut pas le faire, ça, c'est impossible. Vous savez, on peut tuer des gens, on peut mettre en prison des gens, mais on peut pas mettre en prison les idées, ni la mémoire. Vous savez, la mémoire, c'est plus sacré que Dieu lui-même. M'excuse, c'est pas un blasphème. Elie Wiesel a dit, ce n'est pas un blasphème que de critiquer Dieu, c'est un blasphème que de ne pas croire en la mémoire. Et de la trahir.
Le retour manqué en Algérie de 2000 et cette tentative de vous faire taire à Roubaix cette même année ont réveillé certaines plaies que vous pensiez fermer. Vous dites, depuis 1961, je n'avais plus eu aussi mal.
C'est vrai. C'est vrai que lorsque j'ai vu les gens dans la rue manifester, puis quelques semaines avant, m'empêcher par des menaces de chanter à Roubaix, heureusement que j'ai pris l'initiative de continuer, de chanter, de ne pas avoir peur. Voilà. Parce que j'avais peur, pas pour moi, j'avais peur aussi pour le public. Et j'ai convaincu le public de ne pas avoir peur. Et ils m'ont suivi. Ils sont venus de tous les coins de France pour voir le spectacle à Roubaix. Et Roubaix, ça est devenu la capitale contre l'exclusion, contre l'antisémitisme et contre les extrémistes.
Rétrospectivement, vous êtes rendu compte que vous aviez cherché à vous franciser pendant des années, que d'une manière inconsciente, vous aviez été à la recherche d'une normalité française.
Vous savez, quand on est dans un pays, qu'on est reçu dans ce pays plus ou moins bien, attention, ça n'a pas toujours été Byzance, mais enfin, notre devoir, c'est de bien se comporter et de s'intégrer de façon normale. Je veux dire, c'est pas interdit, au contraire.
Et vous dites que dans les années 90, qui selon vous n'était pas la meilleure période de votre carrière, vous étiez trop loin de ce que vous êtes.
Non, j'étais trop loin du goût du public, pas de ce que je suis. Je suis toujours le même. Mais ce que je sortais de mes tripes n'était pas du tout la même chose qu'avant. Parce que mon histoire était un peu usée, peut-être. Moi-même, je me trouvais peut-être un peu usé à cette époque-là, mais j'ai vite ressuscité.
Merci Enrico Macias.
C'est moi, Alban.
Nous nous retrouverons dans un peu moins de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté l'histoire de l'Olympia par Thierry Aveline pour l'émission Opus en 1991, prendre la balle au bon, le deuxième volet des Avoies nues de Juste Fontaine proposé par David Arthur en 2009, et pour finir, Sarcelles au centre du monde, après juillet, une émission de Rémi Douate en 2015 pour Les Pieds sur Terre. Enrico Macias, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.